Sud Radio, il est 3h. Sud Radio. Parlons vrai.
Verisur, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisur.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisur présente.
Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise.
Sud Radio, parlons vrai avec vous, bien évidemment, au 0826-300-300. Manu vous attend au standard. Il vous accueille d'ores et déjà pour parler de l'actualité, réagir à l'actualité, témoigner tout simplement de votre quotidien. Vous nous appelez 0826-300-300. Avec nous, Maxime Troulot. Bonjour Maxime.
Bonjour Benjamin.
Pour faire le tour de l'actualité, de ce qui peut faire réagir nos auditeurs, on commence, Maxime, avec cette question, effectivement, du bouclier antimissile européen évoqué hier par Emmanuel Macron.
Oui, dans un long discours, le chef de l'État qui compte inviter dans les prochains mois, je cite, « tous nos partenaires à bâtir une initiative européenne de défense qui soit crédible face aux missiles russes, incluant donc, Benjamin, peut-être un bouclier antimissile européen ».
Avec cette question que je posais à Roland Lescure, de savoir si la dissuasion nucléaire en faisait partie, entre guillemets, est-ce qu'il s'agissait éventuellement de partager notre dissuasion nucléaire avec les autres membres de l'Union européenne. Il a répondu que la question, en tout cas, était ouverte, que ce n'était pas un tabou. Autre sujet, justement, on continue avec le discours sur l'Europe d'Emmanuel Macron, hier à la Sorbonne. Est-ce qu'il faut décompter son discours, du temps de parole des Européennes pour Renaissance, du coup.
Eh bien, la question se pose, et l'opposition politique, en tout cas, se pose, puisque, en fait, ce discours pourrait être compris dans le temps de parole de la majorité. Donc, de la liste de Valérie Ayer, dans l'opposition, donc, on l'accuse d'utiliser son rôle de président pour faire campagne. Manon Bry dit justement, Macron nous invite donc à assister à son grand discours sur l'Europe pendant les votes au Parlement.
Et puis, un dernier sujet, tenez, Maxime, France Travail, hein, ex-Pôle emploi, là-bas, les agressions et propos suicidaires sont en hausse dans l'ensemble des agences entre 2022 et 2023.
Plus 12% en un an, en plus de 16 000 fiches de signalement d'agression ont été déposées auprès de 900 agences. On retrouve notamment les agressions verbales suivies des incivilités.
Merci Maxime. Tout de suite, on va parler du bouclier européen antimissile avec Jean-Pierre de Chatou. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Benjamin, comment allez-vous?
Ça va et vous, en forme?
Ça va bien, à la grande forme. Il y a le soleil qui est là. Ça va bien.
Oui, c'est le principal. Pas trop froid, ça va, les températures remontent.
Ça remonte un petit peu. Alors, il fait un peu frais, mais ça va. Tant qu'il y a du soleil, tout va.
C'est sûr, ça fait du bien. C'est important. Bon, Jean-Pierre, vous voulez réagir sur cette question du bouclier antimissile européen. Vous avez entendu, Emmanuel Macron en a parlé hier. Pour lui, c'est un objectif très clair. Vous en pensez quoi, vous, Jean-Pierre?
Sur le principe, il a raison. Après, ça va être de convaincre tous nos partenaires européens qu'il faut ce bouclier nucléaire. Le problème, c'est qu'on est déjà pas foutu de se mettre d'accord sur plein d'autres choses.
Bouclier antimissile, effectivement, la question ensuite de la dissuasion nucléaire se pose, mais là, on parle de bouclier antimissile. C'est ce que, par exemple, c'est le dôme de fer qu'on a du côté d'Israël. Ça serait un peu dans la même idée. Après, là, c'est moi qui rajoutais effectivement cette question. Est-ce que, finalement, ça ne va pas tendre vers une forme de partage de cette dissuasion nucléaire avec l'ensemble des autres pays membres de l'Union européenne? Voilà. Pour la petite précision, Jean-Pierre.
Ouais, bien sûr, mais ce bouclier, je pense que le bouclier antimissile, on n'a pas besoin d'évoquer. Je pense qu'en France, on est assez bien armé. On a quand même d'assaut notre industrie principale qui, je pense, à ce niveau-là, peut nous aider. Mais la France en elle-même, je pense qu'elle est assez grande pour se défendre. Après, c'est de convaincre les partenaires que c'est important que l'Europe fasse une. Et il serait temps que l'Europe fasse une et que l'Europe se mette, soit le troisième bloc tant attendu depuis des décennies. Et le problème, c'est qu'on n'est pas encore ce troisième bloc face aux Américains et à la Chine, quoi.
Et on le voit, globalement, sur ce qui se passe en Ukraine. Alors, il y a eu un réveil, quand même, quand on parle d'Europe de la défense. Ça serait dur de dire qu'elle n'existe pas encore, puisqu'avec la guerre en Ukraine, il y a déjà, on va dire, des convergences pour tenter d'aider l'Ukraine à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, typiquement, on parle des États-Unis, l'OTAN a un rôle majeur, presque principal, dans cette protection, on va dire, de l'Europe, quoi, à ses frontières.
Ouais, tout à fait. Mais il va falloir que l'Europe se réveille et que l'Europe ne fasse pas de bloc autour de plein de choses sur le plan économique, sur le plan militaire. Depuis le temps que je me rappelle, moi, à l'époque de Mitterrand, j'étais jeune encore, mais on parlait déjà d'une Europe militaire, c'est-à-dire d'avoir une Europe qui soit capable. Vous vous rendez compte, Mitterrand, on parle de Mitterrand, et on est 30 ou 40 ans après, on n'a toujours pas avancé sur ces questions-là. Alors je sais pas pourquoi, mais ouais, il va être temps que l'Europe se commence à se réveiller, commence à se protéger un peu au plan économique et tout ça, mais bon, le réveil est douloureux, on va dire.
Jean-Pierre, dernière question sur la dissuasion nucléaire. Est-ce qu'il faut la partager, cette dissuasion, avec l'ensemble des pays membres de l'Union européenne? Ça vous semble une idée intéressante ou alors ça vous fait peur?
Ah non, il faut, avec l'Allemagne, avec... de toute façon, il faut qu'on aille vers le nucléaire. On s'aperçoit que le nucléaire est quand même une énergie. Alors, elle n'est pas forcément verte, elle n'est pas tout ce qu'on veut, mais quand même, quand on a une dépendance aux autres énergies, on s'aperçoit vite qu'on est vite dans le cambouis. Le gaz, on n'en a pas. Et alors que le nucléaire, les Français savent faire. Je ne comprends pas que l'Europe soit aussi... Alors oui, c'est dangereux, si plein de choses.
Alors quand je parle de dissuasion nucléaire, j'ai peut-être pas été assez clair, Jean-Pierre. C'est de dire, on a l'arme nucléaire... C'est au-delà de l'énergie. Si on a l'arme nucléaire, on se protège grâce à cela, puisqu'il y a cette doctrine de la dissuasion, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas nous attaquer puisqu'on a l'arme nucléaire. Voilà. Et la question qui se pose, c'est pour protéger l'Europe, est-ce qu'on doit la partager, finalement, cette dissuasion nucléaire? C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est si on nous attaque, eh ben, on a cette arme nucléaire qui fait qu'on va dissuader nos ennemis. C'est dire, si l'Allemagne est attaquée, si l'Italie est attaquée, eh bien, on fait jouer cette dissuasion nucléaire.
Mais on peut. Moi, je ne vois pas le problème. C'est avant tout nos partenaires, c'est des pays proches. Et pourquoi pas commencer justement avec l'Europe des 7 qu'on avait au départ, en leur disant, autant avoir une dissuasion nucléaire, autant qu'elle soit concentrée sur les 7 pays, on va dire, autour de la France, et puis qu'après, on l'étende à ceux qui veulent, qui adopteraient notre philosophie et qui adopteraient nos points de vue. Après, c'est pas question de la donner à tout va, à n'importe qui. On sait pas, quand on voit qu'on a développé l'Europe un peu n'importe comment, en faisant rentrer des pays pas forcément du même point de vue que nous, mais pourquoi pas commencer avec l'Europe des 7, avec l'Allemagne, avec le Portugal, avec l'Italie, avec l'Espagne, avec les pays frontaliers, en leur disant on a une arme nucléaire, elle est commune à nous 7, et puis si jamais, on s'aperçoit que le nucléaire c'est quand même assez dissuasif par rapport à beaucoup de choses, donc dès qu'on a l'arme nucléaire... Mais pourquoi pas la partager déjà avec l'Europe des 7 et puis voir après comment ça évolue.
Ouais, c'est un vrai débat qu'il faut avoir sur ce sujet-là. Jean-Pierre, merci d'avoir été avec nous
merci
ce matin sur Sud Radio. Belle journée et puis profitez bien du soleil alors aujourd'hui, Jean-Pierre.
Ouais.
C'est important,
merci.
Ça fait du bien. Allez,
bonne journée.
À tout de suite. On va parler de France Travail, ce qui se passe du côté de France Travail. Maxime, vous nous le rappelez, les agressions, puis les intentions suicidaires qui sont en hausse de 12% dans les agences de France Travail. Ouais. On fait réagir tout de suite, c'est Julien qui est au 0826-300-300 de l'Essonne. Julien, bonjour.
Oui, bonjour Benjamin.
Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes vous-même sans emploi, vous êtes en lien avec France Travail, vous y allez?
En fait, moi j'ai créé mon entreprise il y a moins d'un an. D'accord. Et donc pour l'instant je bénéficie toujours de mon chômage. Donc je suis effectivement en contact permanent avec France Travail pour tous les mois me déclarer et toucher mon salaire. Mais quand j'ai créé mon entreprise, il a fallu que je passe par France Travail pour me faire accompagner dans la création d'entreprise. Et je me suis rendu compte, en fait, ce qui m'a poussé d'ailleurs à faire ma création d'entreprise au démarrage, c'est que je me suis rendu compte à quel point le monde du travail, la demande des travailleurs aujourd'hui est décorrélée complètement de la demande des employeurs aujourd'hui. C'est-à-dire que les employeurs sont sur un moule qui est très rétro, on va dire, c'est très ancien. Ils disent on a besoin de vous dans tel cadre, alors qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus travailler avec les contraintes qu'on acceptait il y a encore 10 ans, enfin avant le Covid.
Et les employeurs, est-ce qu'ils ne sont pas en train de bouger un petit peu là-dessus? On parle alors notamment pour les cadres, sur le télétravail, ça ne concerne pas tout le monde, mais il y a la semaine de 4 jours aussi qui est étudiée.
Ça commence à bouger, il s'adapte aux besoins, mais France Travail est en retard entre les deux. Il y a le demandeur qui bouge, le receveur qui bouge et l'intermédiaire qui, lui, ne bouge pas vraiment bien. Enfin, ce que je trouve dommage, c'est que là, ils ont changé de nom France Travail, ils ont dépensé un fric monumental pour juste un design, un logo, un nom, dans les faits derrière, rien n'a bougé. Même pire, on a vu les failles de sécurité avec tous les numéros les identités des personnes.
Ça aurait été pour l'emploi, ça aurait été la même chose quand même.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils n'avaient pas mis 1 million d'euros dans le logo France Travail, peut-être qu'ils auraient pu investir dans une équipe de sécurité, pour sécuriser un petit peu leur infrastructure, et que ça aurait été peut-être un peu plus safe, ou au moins de former leur personnel, puisque visiblement la faille vient du fait que leur personnel n'est pas assez formé aux règles de sécurité basiques d'internet et que bah là, et ça, a priori ça se tournait sur du phishing et du coup ouais. S'ils avaient été un petit peu mieux formés plutôt qu'on leur change de nom et que
ils n'auraient pas ouvert ce mail voilà
ouais. Ils ne seraient pas tombés dans le panneau ouais. Et c'est le problème, c'est qu'on est géré par des gens qui n'ont pas la notion de la valeur de l'argent et qui dépensent de l'argent qui n'est pas le leur
c'est un débat. Julien, j'aimerais savoir quand on parle justement de ces agressions, de ces pensées suicidaires, enfin c'est quand même très lourd.
Oui, c'est horrible.
Vous êtes en contact, vous avez été en contact très fréquemment avec France Travail. Est-ce que ça vous surprend ou pas, au final? J'ai l'impression que ça ne vous surprend pas.
Non, moi, ça ne me surprend absolument pas, parce que moi, je suis issu du monde médical. Déjà, dans ce milieu-là, il y avait beaucoup de problèmes je pense que c'est tout le bien commun français qui est en souffrance. C'est-à-dire que ce soit l'hôpital, que ce soit France Travail, que ce soit les infirmières, enfin, l'école publique aussi, c'est pareil. Dans tous ces corps de métier qui sont sujets à l'infrastructure étatique, il y a une pression monumentale qui leur est soumise et un cadre qui ne suit pas, en fait, l'évolution du monde. Et ce qui fait que, du coup, ils se retrouvent à travailler en contradiction avec leurs propres valeurs et, du coup, forcément, c'est des travails en tension, en souffrance, et c'est pas nouveauté, mais c'est dramatique, mais c'est horrible. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté d'être soignant et que j'ai décidé de me lancer à mon compte et de plus avoir de patron, puisque je ne suis plus en phase avec ce que le monde me demande dans le cadre de mon travail. Je préfère travailler à mon compte, à mon rythme, gagner moins d'argent peut-être, mais au moins être plus épanoui, être plus heureux, être moins sous pression, du stress. J'ai plus envie de faire passer ma famille avant mon travail. Et malheureusement, j'ai vu mon père a travaillé toute sa vie, il a toujours fait passer son travail avant sa famille. Vous voyez, je pense qu'on est dans un tournant de l'évolution humaine monumentale et qu'il va falloir qu'on s'y prépare et qu'on s'y adapte.
Ouais, c'est une réflexion très profonde qu'il faut avoir effectivement sur ce sujet.
Exactement.
Julien, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une belle journée à vous, Julien. Sud Radio à 9h17. On continue un petit tour d'actualité avec vous, Maxime. D'autres sujets, notamment cette prime pour les conducteurs de métro, la RATP.
Oui, jusqu'à 2 500 € de prime pour chaque conducteur. C'est un accord qui a été trouvé hier entre FO, CGT et la RATP. Dans le détail, on peut aller donc jusqu'à une gratification de 1 600 € si les agents de la RATP sont absents moins de 5 jours pendant les JO. Avec des primes supplémentaires, ça peut donc atteindre 2 500 €.
Ben voilà, ça vous fait réagir. Est-ce qu'on est en train d'acheter la paix sociale pour ces Jeux Olympiques? Vous nous appelez 0826 300 300. Puis alors, quelque chose de beaucoup plus surprenant. Oh non, oui. Maxime, c'est la Croix-Rouge qui préconise la constitution. Il faudrait qu'on se fasse tous un catakit.
C'est ça.
Ouais,
un sac d'urgence.
Pour faire face aux catastrophes naturelles, c'est quoi ça?
C'est ça, une sorte de sac d'urgence où vous pourrez mettre dedans de la nourriture, de l'eau, une trousse de secours, des vêtements. En fait, le problème, c'est que les Français, selon une étude, sont mal préparés face aux catastrophes naturelles.
Ça vous fait réagir? 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio Cahors.
105.
Sud Radio.
Si tu entends nos voix, c'est qu'on est encore là, à compter les saisons.
Tu reviens comme l'hiver, nous, on te voudrait pépère au chaud dans ta maison.
Si c'est vrai qu'on s'amuse, les années nous accusent d'une énième chanson.
35 ans déjà, qu'aujourd'hui plus le droit d'avoir faim, d'avoir froid.
On a tout essayé, ou presque encore, allez.
Alors on va crier qu'on reste,
nous on reste jusqu'au dernier.
On va tout essayer, on reste,
nous on reste.
Jusqu'à la fin.
On passe à table, on accepte l'inacceptable, qu'un de nous peut manquer
de chaleur et d'amour, mais qui volera son secours dans la nuit de janvier.
Si c'est vrai qu'on s'amuse, les années nous accusent
d'une énième chanson.
35 ans déjà, qu'aujourd'hui plus le droit d'avoir faim, d'avoir froid.
On a tout essayé, ou presque,
ou presque encore aller.
Alors on va crier qu'on reste, nous on reste jusqu'au dernier. On va tout essayer, on reste, nous on reste jusqu'à la fin.
Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise.
Parlons vrai sur Sud Radio, avec vous, vous le savez, 0826-300-300. Il y a quelque chose qui vous fait pas mal réagir, c'est le discours sur l'Europe d'Emmanuel Macron. Hier, ça vous fait réagir en bien, en mal, ça vous fait réagir notamment sur la question du temps de parole. Oui, parce qu'on est à un mois et demi des européennes, c'est très proche. Est-ce que c'était un discours de campagne ou pas d'Emmanuel Macron? Faut savoir, Maxime, que du côté des oppositions, certains demandent à ce que ce discours soit décompté du temps de parole de Renaissance.
Oui, ouais. Notamment du côté de la France Insoumise ou même du Rassemblement National, on accuse Emmanuel Macron d'utiliser son rôle de président, sa casquette de président pour faire campagne. Alors ce n'est pas un discours de campagne, a quand même tenu à souligner l'Élysée. En tout cas, vous pouvez réagir.
Oui, c'est sûr que l'Élysée va officiel, pas dire que c'était un discours de campagne, mais en tout cas, voilà, ils disent les choses très clairement. Pour en parler avec nous, Arnaud de Vannes. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour Sud Radio, c'est un plaisir de vous entendre.
Bah, c'est un plaisir de vous avoir, comment ça va? Ça a l'air d'aller bien là.
Oh bah écoutez, ça va, oui, vous savez, on est dans une belle région. En général, tout ce qui est sud, c'est pas mal. Hein.
Ah oui, c'est, je pense qu'on peut dire que c'est mieux. Je crois que personne ne vous entend. Vous êtes du nord, appelez-nous.
On pense soleil. Ça va venir.
Effectivement, bah oui. Bon Arnaud, je ne sais pas si vous avez regardé ce discours sur l'Europe hier d'Emmanuel Macron. Ouais, ça a duré pas loin de 2 heures. Pour vous, est-ce qu'il faut décompter ce temps de parole ou pas?
Évidemment, faut décompter ce temps de parole, parce que rien que le thème sur l'Europe, on comprend bien qu'il essaie de soutenir contre vents et marées sa pauvre candidate, Madame Ayer, qui patine partout dans les sondages, qui est pas à la hauteur, faut dire.
Il y a 17,5% sur notre rolling IFOP fiducial Sud Radio au niveau des intentions de vote. La liste RN, Bardella, 31,5 de mémoire. Et puis Glucksmann, Raphaël Glucksmann, PS Place Publique, qui se rapproche, hein, 13% maintenant.
Bah oui, il faut bien sûr faut tenir. Il monte au créneau, Monsieur Macron, pour soutenir sa candidate. Ça, c'est une évidence. Donc le temps de parole doit être décompté. Je pense que c'est logique. On n'en veut pas de ce fédéralisme européen imposé par M. Macron à chaque fois. C'est pour la destruction des identités nationales. Et les peuples d'Europe ont parfaitement compris que c'était toxique. Toxique pour l'indépendance des nations, pour l'autonomie des peuples. Donc voilà, moi, c'est ce que je pense en écoutant M. Macron.
Oui, alors c'est ce que j'avais compris, hein, Arnaud aussi, comme vous, que finalement, l'idée défendue par Emmanuel Macron, c'était l'idée d'une Europe fédérale et non pas une Europe des nations. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu juste avant Roland Lescure, qui était avec nous, un ministre de l'Industrie et de l'Énergie, qui disait, lui, la souveraineté européenne et française peuvent coexister, très clairement. C'est votre avis ou pas?
C'est du en même temps. C'est toujours le langage flou. Il n'y a qu'une seule identité, on ne la partage pas. C'est quand les nations sont fortes qu'on arrive à s'imposer et à valoriser notre histoire et nos projets d'avenir. Un Italien est fort parce qu'il est italien, un Français, etc. Voilà. Et la solidarité par les identités nationales dans une Europe des nations, voilà l'avenir, à mon sens, mais c'est pas un projet fédéraliste qui gomme toute cette histoire de notre belle Europe qui a plus de 1000 ans d'histoire, quoi, vous voyez.
Après, Arnaud, sur la question du discours de campagne, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il allait faire dans cette galère? Emmanuel Macron, il a tout à y perdre au final. Parce que cette campagne, elle est quand même mal embarquée, quoi. Pour Valérie Ayer, c'est difficile.
Ce qui prouve qu'il a l'épée dans les reins, hein, qu'il est vraiment, ils en peuvent plus, parce qu'ils voient bien que le discours européiste imposé ne prend pas. Ça prend pas. Les gens ont compris ce qu'on vient d'évoquer, quoi. Moi, c'est ce que je ressens dans son discours. C'est toujours du en même temps. C'est très malin parce qu'il il essaye de vendre sa sauce. Et les gens ont bien compris, les peuples ont bien compris que c'était de l'enfumage européiste. Voilà.
Arnaud, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Belle journée. Belle journée à vous, et puis on va continuer à suivre cette campagne, bien sûr, en perspective des européennes, avec, vous le savez, notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, à retrouver sur notre site internet sudradio.fr pour tout savoir de l'évolution des intentions de vote avec ces européennes, donc qui auront lieu, on le rappelle, le 9 juin prochain. Allez, tout de suite, on a Luc du Val-de-Marne. Bonjour Luc.
Bonjour Benjamin, bonjour à toute votre équipe.
Bienvenue sur ce radio. Ouais.
Et merci à Arnaud, je lui dis bienvenue au club.
Ah, vous êtes d'accord avec lui.
Pourtant de clairvoyance.
C'est-à-dire ?
Oh, c'est-à-dire qu'il parle vrai. Hein,
il a son opinion
cette donne. Il a tout à fait raison. Et cette Europe fédéraliste, personne n'en veut. Et nous n'en voulons pas.
En tout cas, vous.
Oui, bien sûr. Allez, on va dire ça.
Ah oui, mais si Valérie Ayer a 17,5% d'intention de vote, ça veut dire qu'il y a encore quand même des européistes, des électeurs potentiellement qui seraient pour une Europe peut-être plus fédérale. Ouais.
Eh oui. Bon, c'est comme ça.
Bon, c'est pas là-dessus que vous voulez réagir. C'est pas le sujet, exactement. Vous voulez parler de cette prime qu'ont reçu les conducteurs de métro de la RATP.
Absolument.
Avec les Jeux Olympiques en perspective. Est-ce qu'on achète ou pas la paix sociale avec ces Jeux Olympiques, notamment les primes du côté des policiers, la SNCF, du côté des Aiguilleurs du Ciel, où il y a eu cet accord aussi trouvé entre la direction et les syndicats?
Oui, c'est positivement un scandale. Bien sûr qu'on achète la paix sociale, et on peut se dire que la magie des Jeux Olympiques de notre président, que notre président nous vend, n'atteint pas tout le monde. Il y a des considérations plus prosaïques. C'est d'autant plus un scandale que, et vous me direz si je me trompe, il me semble que cette prime est soumise à des contingences d'une force énorme, c'est-à-dire que les salariés qui auront cette prime ne pourront pas et devront être présents tout au long de la période. C'est-à-dire que même ils pourront s'absenter 4 jours pendant cette période du 22 juillet au 8 septembre. C'est tellement alambiqué que j'en perds mes mots. C'est-à-dire que pour qu'ils touchent la prime...
En gros, c'est une prime qui valorise ceux qui vont rester pendant les Jeux, quoi. C'est simple, ouais.
Voilà. Benjamin, je vous vois bien de votre lit appeler la direction de Sud Radio en disant « je me lève si je viens travailler
». Je serai là avec vous, en tout cas.
Je ne suis pas sûr qu'on vous verrait souvent, qu'on vous entendrait souvent sur les ondes. Non, c'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale, ouais. comme l'est aussi le comment dirais-je...
Après, on peut dire qu'ils ont un moyen de pression, ils en profitent, tant mieux pour eux, non?
Ah ben, alors, c'est une prime à la nuisance, c'est pas une prime à la paix sociale. Mais vous savez... Je suis toujours étonné que la principale force de ce pays, qui sont les contribuables, ne se servent pas de cette capacité de nuisance. Parce que moi, On peut très bien faire la grève de l'impôt. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Ce n'est pas les dernières mesures qui ont été prises pour le paiement à la source qui peuvent nous empêcher de faire la grève de l'impôt. Vous parliez des policiers. Là,
mais est-ce que ce n'est pas les mêmes conséquences hein.
Oh, vous savez, quand vous avez 20 millions de personnes qui couinent,
oui.
Ça change. Oui. Vous parliez des policiers. Par contre, les policiers, ça, je trouve ça normal. Parce que ils vont avoir une surcharge de travail.
Et un risque supplémentaire aussi.
Et un risque bien supplémentaire, sûr. Pas de vacances et autres. Et non, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y aura un peu plus de métro. Il y a les cheminots aussi, les cheminots qu'on sait beaucoup là. Ils vont partir à la retraite avant de partir à la retraite.
Ils ont effacé la réforme des retraites pour eux.
Ouais, c'est ça. Mais qui peut avoir ce genre d'idée? Qui peut avoir ce genre d'idée complètement abscons?
Bon, Luc.
Et alors, attendez, si vous me permettez une chose.
Rapidement, dites-nous rapidement.
Je vous fiche mon billet pour parler un peu trivialement. Cette prime de 2500 euros, d'une part, ils vont vouloir qu'elle soit intégrée au salaire. Pour la retraite, et deuxièmement qu'après, ils vont vouloir qu'elle soit pérennisée.
Alors, a priori, si c'est une prime, normalement, c'est pas intégré.
Il faut bien une petite grève pour que ce soit pérennisé.
Ouais, puis, alors, on a fait appel aussi à la RATP, je crois que c'est pour les trams. Aux étudiants aussi, voilà, qui voudraient se former pour conduire des trams, voilà. Alors c'est anecdotique, hein, c'est quelques étudiants en l'occurrence, mais bon.
Oui.
Écoutez, on verra cela. Luc, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée et merci à vous tous d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Dans un instant, Maxime, on ouvre les débats.
Oui, on va parler de logement et plus exactement la loi logement. On se posera la question de savoir si c'est la chasse aux pauvres. On en parlera dans un instant avec vos deux invités, Benjamin, Florence Portelli, maire de Taverny dans le Val d'Oise, vice-présidente de l'Association des maires de France, et Jean-Baptiste Hérault, porte-parole du DAL, l'association du droit au logement.
A tout de suite.
Sud Radio Sarlat.
107.1.
Sud Radio.
Straight.
Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees, got me down on.
Le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise.
Sud Radio, parlons vrai, on ouvre les débats sur Sud Radio à 9h35. Elles accusent le gouvernement de faire une chasse aux pauvres. Les cinq principales associations de locataires de logements sociaux pointent du doigt le projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres le 7 mai prochain. On va parler justement de toutes ces mesures qui sont annoncées, dont on va entendre parler les prochaines semaines. Avec nous ce matin, Florence Portelli, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes maire de Taverny dans le Val-d'Oise, vice-présidente de l'association des maires de France, également présent avec nous Jean-Baptiste Hérault, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio également. Vous êtes porte-parole du DAL, l'association du droit au logement. Parmi les principales mesures annoncées, et qui fait d'ailleurs cette mesure énormément réagir, c'est la question de la fin du logement social à vie. Ça a été d'ores et déjà annoncé par le ministre du logement, Guillaume Kasbarian. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, selon vous, Florence Portelli?
Écoutez, ça dépend comment c'est fait et ce qu'il veut dire derrière. C'est-à-dire, en réalité, aujourd'hui, la majorité de nos compatriotes n'arrivent plus à se loger. Et c'est un drame absolu qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, n'a absolument pas traité depuis qu'il est président de la République. Dans les métropoles et dans les banlieues, c'est... La situation est absolument terrible. Et je vous rappelle qu'il avait enterré en grande pompe avec, dans une posture assez humiliante, Jean-Louis Borloo, avec le plan qu'il avait fait pour les banlieues. Donc c'est des gens qui se foutent complètement de la politique du logement. Il y a même une période où on n'avait même pas de ministre du logement, donc c'est vraiment pas leur priorité. Donc je vous dirais sincèrement, j'attends de voir ce qui se passe, parce que d'un côté, on manque de logements d'urgence pour les plus précaires. De l'autre côté, on n'arrive plus à loger les classes moyennes. Et enfin, ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'y a pas de politique d'accession à la propriété. Ce qui fait que vous pouvez trimer toute votre vie, avoir des conditions de vie parfois même difficiles, parce que vous n'avez pas toujours un travail très facile. Et à la fin, vous n'avez pas de quoi... assurer, garantir finalement votre vieillesse. S'il se passe un pépin, vous ne pouvez pas mettre en location votre logement ou le vendre. Vous n'avez rien à transmettre à vos enfants. Donc il y a un vrai problème de la chaîne de l'habitat. Donc je ne sais pas ce qu'il appelle mettre fin au logement à vie. Moi, je pense qu'on reste beaucoup trop longtemps dans un logement social. Mais la question, une fois qu'on a dit ça, c'est comment on permet, notamment en classe moyenne, d'accéder à la propriété, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Par exemple, rien qu'en Ile-de-France, 76% des foyers sont éligibles au logement social. Et comment aussi on aide les plus précaires à trouver une solution d'habitat.
Jean-Baptiste Hérault du droit au logement, sur ces différentes mesures, vous les avez découvertes d'ores et déjà, notamment sur cette mesure de la fin du logement social à vie. En gros, à partir du moment où on dépasse le seuil, on est invité à quitter le logement, ce serait une des possibilités. Ça vous fait réagir, ça vous met en colère?
En colère, non, pas vraiment, mais on trouve ça un peu incohérent, si vous voulez, parce que d'un côté, il y a une injonction pour la mixité sociale dans les HLM, et d'autre côté, on va virer les classes moyennes, quoi. Bon, voilà. Donc là, il faut regarder un peu attentivement ce qui va se passer du point de vue de la loi, de l'élaboration du texte de loi. Maintenant, ce qui nous préoccupe le plus, parce que ça, c'est le côté slogan, en gros, on met les classes moyennes, on va dire, il faut du logement social, comme vous l'avez dit assez justement, enfin, quelque part, on a besoin de logements sociaux, mais c'est pas environ quelques locataires qu'on va régler le problème.
Avec ces idées, en fait, on oppose d'un côté les classes moyennes aux classes les plus pauvres, quoi, en gros, c'est ça.
Oui, il y a ce côté-là, puis à l'autre côté, on leur fait payer un surloyer, ça nous paraît tout à fait juste, et ce surloyer devrait permettre de faire qu'on appelle de la minoration de quittance, c'est-à-dire de la baisse des loyers pour loger des ménages modestes dans du logement intermédiaire, du logement entre guillemets pour classe moyenne ou ailleurs, je sais pas quoi. Donc si vous voulez, c'est un côté un peu démago, moi je dirais, hein, cette annonce et cette communication.
Non, puis c'est surtout, excusez-moi, ça s'appelle pas la fin du logement social à vie. Ouais. Qui est dans du logement social à vie? Les gens en général qui sont dans des HLM, il n'y a pas de turnover. Donc ça, c'est de la fumisterie. Si c'est uniquement en effet virer les classes moyennes supérieures, et encore, qui sont dans ce qu'on appelle les PLS, les logements sociaux, le moins sociaux possible, entre guillemets. Et puis surtout privé. Nous, il faut savoir qu'avec l'État, on signe des contrats de mixité sociale. Alors comment va être la mixité sociale? Comment va faire la mixité sociale dans les écoles si vous ne l'avez pas dans les quartiers, que ça devient des quartiers ghettos? Comment aussi on fait, parce que il n'y a pas d'accession, comme je disais, à la propriété dans ce pays, ça devient de plus en plus difficile, l'immobilier a flambé, il y a aussi une pénurie de construction.
Il y a une pénurie de construction. Pour sortir de ces
attendez, HLM, moi je vais vous dire, moi je construis, donc j'ai pas de pudeur par rapport à ça, et je fais aussi des logements très sociaux pour les plus défavorisés. Pourquoi d'ailleurs j'ai eu un moment un frein dans les constructions de logements? Parce que c'est les Verts qui attaquent à chaque fois les projets au tribunal. Donc ça c'est la réalité. Au nom de nos soi-disant politiques écologiques, il faut pas l'empreinte carbone, il faut pas qu'on construise trop, c'est mauvais pour la planète, etc. Alors qu'il y a un vrai problème humain. Et évidemment, il faut pouvoir loger les gens. Ça ne veut pas dire ne pas respecter des clauses environnementales, ne pas respecter l'écologie, etc. Mais il faut aussi respecter l'humanité. Donc en fait, le problème, il est beaucoup plus complexe que ça. Mais ça, ce n'est pas du tout la fin du logement social à vie. Et puis je rappelle aussi de manière très pragmatique, les bailleurs ont des difficultés parfois à encaisser l'argent du loyer. Et on y reviendra peut-être. Une très très mauvaise politique du logement. Parce que en fait, en France, notamment les préfectures Action Logement, ils logent pour loger, mais ils ne regardent pas les conditions de vie des locataires. On a des gens, Action Logement, c'est un ordinateur et des algorithmes. Quand vous avez un logement qui se libère, on extrait trois personnes qui seraient a priori sur l'ordinateur éligible, à part que souvent, elles n'ont pas réellement les moyens d'être en logement social, et ça atterrit dans les CCAS parce que les factures sont trop élevées, que ces gens-là ne vont pas dans des PLAI et qui n'arrivent pas à assumer finalement les charges. Donc il y a une très mauvaise politique du logement. Mais les locataires qu'ils veulent virer parce que soi-disant, ils auraient dépassé le plafond alors qu'ils payaient sur loyer, c'est ceux qui permettent souvent aux bailleurs sociaux d'équilibrer les comptes, parce que c'est ceux qui ne sont pas en situation de surendettement, c'est ceux qui paient leur loyer, etc. Mais en tous les cas, ce n'est pas la fin du logement social à vie. Ce n'est pas la fin du logement social à vie, ce n'est pas une politique de la propriété.
Jean-Baptiste,
le bilan que vous faites de la situation, ce que j'ajouterais, c'est qu'en réalité, la cause de la crise du logement, c'est le logement cher. C'est le contexte spéculatif qui a fait monter les prix du foncier, de l'immobilier et des loyers, logement cher. Alors pourquoi? Parce que évidemment, ça, vous êtes maire, donc vous savez très bien de quoi je parle. Les droits de mutation, ils tombent dans l'escarcelle. Attendez. Oui. Et nous, ce qu'on observe, c'est que les municipalités, grosso modo, les maires, en gros, hein, vont plutôt chercher à faire de la gentrification plutôt qu'à loger les classes populaires. Bon, c'est une réalité objective. Et l'État va aussi dans cette direction.
Il y a des freins à la construction tout de même aussi.
Oui, non, ouais. mais des freins à la construction. Le vrai frein à la construction, c'est que le logement est trop cher. Enfin, il a suffi que les taux d'intérêt remontent de quelques points pour que tous les milieux de l'immobilier se mettent à crier au secours de la crise, etc. En réalité, la crise, elle a commencé depuis longtemps. Ça fait 30 ans qu'on mène une politique qui aboutit à la situation qu'on connaît aujourd'hui et qui encourage la spéculation immobilière, la montée des prix, la rente locative et les profits qui sont tirés du logement cher.
Vous n'êtes pas d'accord.
Donc le résultat, c'est que les sans-abri, on a de plus en plus de sans-abri, de plus en plus de logements vacants, il faut quand même le rappeler aussi, parce que là, on a une mesure de réquisition qui devrait être appliquée et qui n'est pas. Aucune politique pour mobiliser les logements vacants, hein, comme si finalement la pénurie et la crise du logement intéressait et convenait au pouvoir
juste
actuel.
Juste pour vous répondre point par point déjà sur parce que Florence Portelli voulait réagir déjà.
Non, c'est vrai à moitié. Moi, je vous prends l'exemple. Non, mais je suis vice-présidente de l'Association des maires de France. Je sais ce que me disent aussi les collègues,
bien sûr,
et les difficultés qu'ils ont.
Je pense
qu'il ne faut pas opposer les maires qui gèrent aussi les difficultés sociales avec les CCAS et qui sont, j'allais dire, les mains dans le cambouis et qui font un travail formidable et qui ont énormément d'empathie. Donc, je pense qu'il ne faut pas caricaturer. Je prends l'exemple de ma commune.
Mais je ne sais pas ce que vous faites, vous.
Non, mais je parle des maires. Là, je parlais au nom de la
MF.
Moi aussi. Moi, je parlais en tant que vice-présidente de l'Association des maires de France, j'ai dit les maires, je ne m'appelle pas les maires. Bon. Pour ma ville, maintenant que vous m'interpellez sur ma ville, j'avais un projet de construction d'éco-quartier, d'ailleurs que j'ai toujours. J'ai eu deux contradictions. Un déjà, la gauche chez moi, qui attaque ça en justice, au nom de l'artificialisation des sols, etc. Ils se foutent complètement qu'on n'arrive pas à loger les gens. Chez moi, je n'ai pas de logement vacant. Et d'ailleurs, j'ai pris des mesures contre les marchands de sommeil. Je fais du logement social. Et j'ai aussi les services de l'État qui me disent deux choses différentes. D'un côté, j'ai un service logement qui me dit qu'il faut construire du logement social. Il faut en faire, très bien. De l'autre côté, j'ai un autre service de l'État qui s'appelle la MRAE, une soi-disant mission indépendante environnementale qui me dit vous n'êtes pas en zone tendue. Alors je suis en zone tendue en Île-de-France et il ne faut pas que vous construisiez des logements. C'est-à-dire, c'est comme dans le dîner de con, la rouge ou la rouge, quoi, si vous voulez. Mais là, en contradictoire. Donc régulièrement, j'interpelle le préfet, je dis j'obéis à qui ? Je suis qui ? Vos propres services me disent l'extrême inverse. Donc ça, il faut aussi que vous ayez ça en tête. C'est que comme il n'y a pas de politique de logement, mais il n'y a pas non plus de courage, on crée des autorités pour faire bien, pour faire écolo, alors qu'en réalité, d'ailleurs, ils ne connaissent pas grand-chose parfois à l'écologie, qui sont très politisées et qui nous font des injonctions totalement contraires.
Ça veut dire qu'à ce niveau-là, on laisse aux collectivités locales...
Les collectivités locales, mais moi j'ai attaqué plusieurs fois l'État en justice, alors que j'ai même gagné.
Oui.
Mais là-dessus, on a dû batailler, on a eu la haute autorité environnementale qui est venue, on a contre-argumenté, et puis on a eu pour le moment gain de cause. Mais c'est de la perte de temps, c'est compliqué, il y a des maires qui n'y arrivent pas. Et puis après, il y a aussi des injonctions qui rendent les textes inapplicables. Moi j'ai des collègues, on leur demande de construire parce qu'ils n'ont pas de foncier disponible, en zone inondable.
On va revenir dans un instant justement sur ce débat. Encore beaucoup de choses à dire avec vous, Jean-Baptiste Hérault, je le rappelle, porte-parole du DAL, l'association Droit au Logement, et puis Florence Portelli, maire de Taverny dans le Val d'Oise, vice-présidente de l'association des maires de France. À tout de suite.
Sud Radio Foix.
103.7.
Sud Radio. Mon enfant.
numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise.
Sud Radio, parlons vrai, le débat continue aussi en antenne. Mais il va se poursuivre avec vous pour parler justement de ce projet de loi sur le logement, logement social. Le gouvernement fait-il la chasse aux pauvres? Avec nous, Florence Portelli, maire de Taverny dans le Val d'Oise, vice-présidente de l'Association des maires de France, je le rappelle. Et puis Jean-Baptiste Hérault, porte-parole du DAL, l'Association du droit au logement. On avait laissé ce débat sur la question justement la différence qu'on peut avoir entre certaines mairies qui vont véritablement faire un effort sur le logement social et d'autres qui vont, pour le coup, faire aucun. Jean-Baptiste Hérault.
Bah écoutez, ce qui nous apparaît, ce qui nous semble, hein, c'est que globalement, on produit de moins en moins de logements sociaux en France. Ça, c'est
assez clair.
C'est une évidence. Quand on regarde le solde d'année en année, on a moins de 50 000 logements supplémentaires chaque année. Parce qu'une fois qu'on a déduit les ventes de logements sociaux, parce que les bailleurs sociaux sont obligés de vendre le patrimoine pour avoir un peu d'argent, vu que l'État et Macron leur a coupé les vivres. Deuxième chose, il y a la question des démolitions HLM, qui est aussi problématique, parce que parfois ça s'apparente à, on va dire, une forme de gentrification, même, on va dire le mot, d'épuration sociale. Parce que derrière, on va changer les populations et on va faire monter les prix immobiliers autour. Surtout dans les zones tendues, je parle des zones les plus tendues. Donc là, du point de vue des maires, je dirais que, alors il y a quand même des mesures dans la loi. Il y a des mesures qui sont prévues, notamment de déléguer l'attribution des logements sociaux aux maires.
Voilà.
Et donc nous, là-dessus, on est très inquiets, parce qu'on a vu, ça a été fait déjà. Ça a été fait, oui. Non mais, peut-être que vous allez faire les choses correctement. Mais en attendant, ce qu'on observe, c'est que quand ça a été mis en place en France, entre 2004 et 2017, ça a été une violation aux obligations qui incombaient aux maires en matière de relogement des prioritaires d'ALO, en matière de relogement des prioritaires en général, avec le développement d'une politique clientéliste, c'est-à-dire comme on a connu dans les années 90 à Paris.
Florence Portelli, maire de Taverny, réaction sur ce point-là, sur cette question aussi, sur cette mesure de donner plus de pouvoir aux maires. À vous, dans cette attribution des logements sociaux.
Alors, deux choses. C'est pas tout à fait vrai ce qui est dit, parce qu'en fait, au départ, quand on a... Non, mais je corrige une donnée purement factuelle. Quand on a, par exemple, des contingents ou même sur les contingents préfectures, on nous dit la première attribution, c'est avec les maires que ça se décide. Une fois que le locataire part, ce n'est plus le maire qui a la main. Donc, faut remettre, guise au milieu du village.
Non, la loi...
Non, mais je vous parle actuellement. Actuellement, réalité des faits, c'est ça. Sur les DALO, la difficulté aussi, c'est que de mon point de vue, on a confondu dans ce pays le logement social et le logement d'urgence. Ce qui fait que d'ailleurs aujourd'hui, vous vous retrouvez parfois avec des gens, donc ce qu'on appelle DALO, des gens qui sont dans une situation extrêmement précaire, qui normalement devraient être fléchés vers de l'habitat d'urgence ou vers ce qu'on appelle des PLAI, c'est une typologie de logement social pour les gens qui sont en grande précarité. Et aujourd'hui, le système fait que les préfectures à Action Logement, plutôt que de se soucier d'ailleurs de leur capacité, ce que je disais tout à l'heure, à même payer les charges, ils flèchent les DALO sur des logements qui n'auront pas après les moyens de payer, et notamment les PLUS et même parfois des PLS. Moi, j'ai eu des cas comme ça. Donc, loger pour reloger, c'est du dogmatisme et c'est idiot. Après, sur le fait que les maires aient la main. Pourquoi on veut que les maires aient la main? Alors parfois, c'est aussi dans l'autre sens que c'est pas très bon. Valérie Pécresse, on a pris une disposition pour arrêter de ghettoiser des endroits où il n'y avait plus de 30% de logement social. Parce que la difficulté, quand vous faites des quartiers ghettos, c'est que les gens ne s'en sortent pas socialement. Donc moi, je suis contre le fait de ne pas faire de logement social. Je suis contre le fait aussi de ne pas accéder à la propriété. Je suis contre le fait de ne pas faire du logement très social. Mais je suis contre aussi les quartiers ghettos parce que ça a été fait de manière clientéliste pour remplacer aussi l'ancienne classe ouvrière. Ça a été fait notamment dans certaines banlieues communistes ou de gauche. Je prends l'exemple de Trappes. On a aussi après un tel phénomène de ghettoisation qu'on a même une montée également d'un communautarisme parfois anti-républicain. On a dans ces quartiers-là un taux de chômage des femmes extrêmement important. Donc uniquement se dire je loge, je mets dans les immeubles, je tourne le dos, j'ai fait mon action, je suis tranquille, c'est pas sérieux. Et d'ailleurs les maires après gèrent socialement ces bombes sociales. Donc il ne suffit pas de caser les gens dans des logements, il faut avoir une politique d'accompagnement social et d'émancipation. Donc je vous dirais que les maires aient la main, pourquoi pas, mais est-ce qu'ils l'auront jusqu'au bout? Est-ce que quand il y aura du turnover dans ces logements, ils l'auront? Est-ce qu'on permet réellement la mixité sociale? Est-ce qu'il ne faut pas assumer et dire on fait une politique de quotas pour qu'il y ait un vrai équilibre social, culturel dans les logements? Souvent d'ailleurs, on le fait un peu en off, mais on ne peut pas le dire parce que ce n'est pas dans la loi. Il faut vraiment que la mixité, ce ne soit pas un gros mot. Il faut que les gens aient l'impression d'appartenir à une même communauté nationale. Et pour ça, ça passe par une véritable mixité. Et aujourd'hui, nous n'avons pas tous les outils pour cela.
Jean-Baptiste Hérault, cette question des quotas de mixité sociale.
Écoutez, ça, c'est pour nous, c'est une histoire qu'on nous rabat là, depuis 25 ans. Nous, ce qui importe pour nous, c'est que les gens soient logés. C'est quand même la première chose. Après, vous avez les maires ont leurs problèmes de gestion, etc., etc. Bon, ok.
Mais si on va parler d'être humain, là, hein.
Nous, ce qu'on observe, c'est que on a aujourd'hui 330 000 sans-abri. On a 2,6 millions de demandeurs de logements sociaux. 80% d'entre eux, d'ailleurs, sont éligibles. 70% sont éligibles à un logement très social. Donc, il faut répondre à la demande. Et dans le secteur privé, c'est la jungle. C'est la jungle. Il y a des lois qui encadrent les loyers, par exemple, qui se mettent en place, enfin, qui existent dans le centre de ville, qui sont violées impunément. Le gel à la relocation qui existe, à la relocation dans le secteur privé, qui existe depuis 2012, n'a pas empêché la hausse des loyers dans les zones tendues, parce qu'il n'est pas respecté par les bailleurs ni les milieux immobiliers. Les congés frauduleux avec les JO, qu'on voit se développer aujourd'hui, parce que les bailleurs vont se dire on va faire du Airbnb, etc., on va faire de la location et gagner un maximum de fric. S'il y a un côté, c'est-à-dire que le logement, c'est devenu l'Eldorado dans l'esprit d'un certain nombre de personnes. Évidemment, une minorité, parce que je veux dire, déjà, pour posséder plusieurs logements,
faut avoir un peu de moyens
derrière. Résultat des courses, c'est 30%. Qui sont les 30%, la limitation là qui est donnée à 30% de logements sociaux dans les villes, moi je trouve c'est un peu injuste parce que 30% ça permet pas de loger. Les 800 000 demandeurs de logements sociaux en Ile-de-France.
Je vous le dis très sincèrement, les yeux dans les yeux, je n'irai pas vivre à Trappes et j'aimerais pas que ma fille y vive.
Oui, bon, voilà. Okay,
bah non, mais vous vivez où? Bah non, mais excusez-moi.
Exemple de Trappes, mais si vous voulez.
Excusez-moi, moi je vous dis où je suis.
Il y a un tas de quartiers de logement social qui se passent très bien.
Oui, tout à fait, mais pas quand on est à 50 ou 60%.
Parce que les gens eux-mêmes
aspirent à la mixité. Il y a pas longtemps, j'étais dans un collège, école primaire d'Argenteuil qui s'appelle Espérée banlieue, où justement les mamans des quartiers nous disaient qu'elles y allaient parce que elles voulaient sortir de la ghettoisation de certains quartiers pour retrouver des mixités sociales.
Mais pourquoi on fait pas de la mixité dans 16e et à Neuilly?
Pourquoi vous me regardez? Je suis pas dans 16e à Neuilly.
Et chez Madame Pécresse.
Non, mais je vous dis,
S'il vous plaît. Oui, donc débat très vif, vous l'aurez compris. On y reviendra, on aura l'occasion, puisque le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres le 7 mai prochain. En tout cas, merci à vous, Florence Portelli, maire de Taverny, dans le Val-d'Oise, vice-présidente de l'Association des maires de France. Merci à vous, Jean-Baptiste Hérault, porte-parole du DAL, l'Association du droit au logement. Discussion, échange musclé, mais avec des arguments, bien entendu. 9h57 sur Sud Radio, très rapidement. Je remercie toute l'équipe de Parlons Vrai sur Sud Radio qui a œuvré tout au long de cette semaine. Manu au standard, Maxime et Jamel à la réalisation, également Laura du côté du web à la programmation. Eh bien, Juliette et Joseph. Et puis, je n'oublie pas également Maxime Trouleau. Très bonne journée sur Sud Radio dans un instant. Sud Radio Média avec Valérie Expert et Gilles Gansman qui reçoivent Bernard de la Villardière.
Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise.
Avec Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit.
Sud Radio Avignon,
95.2.
Sud Radio.
Tant qu'on joue, peu importe de gagner la vie, c'est additionner les années et tant pis. Il y aura des jours sans, des galères, des soirées qui feront venir le soleil en pleine nuit. Je t'aime, autant le dire comme le monde n'attend pas. Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi. Des couleurs, il en faudra. L'espace est la tempête, on est plus fort que ça. Plus rien nous arrête, on est plus fort que ça. L'espace est la tempête, on est plus fort que ça. Plus fort.
jusqu'au bout, peu importe les avis, j'encaisse. J'ai à sillonner les échecs, et tant pis. Si je perds sur la route de mes rêves, des amis qui durent et je croyais pour la vie. Si tu l'aimes, autant lui dire et le reste attendra. Je croyais que l'avenir ne se finissait pas. Je vais courir et ça ira. L'espace est là.
Sud Radio.
Sud Radio.
Je crois que la nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des supercuts.
Serveuse dans le diner accoudée au motel.
Elle porte un tablier qui la rend super belle. Quand les clients arrivent, ils commandent des meatballs. Le regard dirigé vers le match de baseball.
Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté.
Mais dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir cette danseuse étoile. Qui danse? Scénariste. Ça break, ça danse, on est dans la street. Les groupes se forment, y'a des gars, des filles. Y'a du rap rock, y'a des défis. Et puis y'a ce mec en apesanteur. Moitié condor et moitié breaker. Un performeur, je te le jure, j'insiste. C'est un danseur unijambiste. Personne ne demande ce qu'il fait là. Ici on se fout des vuvuzela. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse. Il danse. C'est naturel, ça sonne comme une évidence. Il danse, quelle que soit la distance. La transe est un dialogue qui crée la correspondance. Il danse pour leur indépendance. Qu'importe la gouvernance, quelle que soit la présidence. Il danse sur champ de résistance. La danse de la pluie pour amener l'abondance. Il danse.